Europe Matin Weekend.
Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus. Nous sommes le dimanche 24 octobre. Il fait froid ce matin. Marseille va se réveiller sous le soleil. Quoi qu'il en soit, Marseille qui reçoit ce soir 20h45 Paris, c'est le classico, le match de l'année. Ce sera bien sûr en direct sur Europe 1. Ambiance quand même ce matin. Je lisais La Provence qui titre la passion exacerbée versus l'argent à gogo. Voilà, ça c'est dit. On va en reparler bien sûr dans le journal. Et puis à 7h moins le quart, je recevrai le maire de Poissy, Carl Olive, fan de foot et ancien journaliste sportif qui a écrit un livre sur ces matchs historiques entre Paris et Marseille. Allez, on chausse les crampons, on vous accueille avec plaisir. Bon réveil à tous. Merci d'écouter Europe 1 sur le Vieux-Port et ailleurs, il est 6h.
Europe Matin Weekend. Thierry Dagiral.
Toutes les informations que l'on va développer dans cette première édition. Après le gaz, l'électricité, le carburant, c'est la baguette de pain qui va augmenter. Reportage dès le début du journal. 15h cet après-midi à Mulhouse, marche blanche pour Dina. Elle avait 14 ans et elle s'est suicidée, victime de harcèlement scolaire. Et puis nous irons en Chine, visite guidée du plus grand centre de quarantaine anti-Covid au monde, avec plus de 5000 chambres. Vos rendez-vous de la prochaine demi-heure, 6h12, les pronostics de Thierry Léger pour le quintet qui se tient aujourd'hui à Longchamp, puis la rencontre du dimanche, Barbara Pravi qui sera en tournée très bientôt. 6h23, on va partir bien sûr en balade avec Vanessa Zah et Marion Sauveur, d'abord à Belle-Île, en mer, puis en Normandie pour cueillir du safran. Mais d'abord la tendance météo. Bonjour chère Valérie Darmon.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Un temps un petit peu perturbé sur la Bretagne, enfin sur le bec breton, avec quelques petites pluies donc sur le Finistère cet après-midi. Beaucoup de brouillard ce matin entre la Bourgogne et les Ardennes qui peut créer des problèmes de visibilité. Soyez prudents si vous circulez sur ces régions et c'est très ensoleillé ailleurs.
Bien sûr, on fait un point complet dans 8 minutes. Alors vous êtes peut-être en train de faire griller votre baguette, elle pourrait coûter très bientôt un peu plus cher et cela à cause du blé qui a augmenté de 30% en un an. Reportage dans une boulangerie parisienne, Yasmine Akatou.
Alors qu'est-ce qu'il vous fallait ?
Une graine s'il vous plaît.
Ça nous fera 1,35€.
Et d'ici quelques semaines, cette même baguette multigraine pourrait coûter 1,40€, voire 1,45€. 5 à 10 centimes à débourser en plus, les clients n'apprécient pas.
Ça devient abusé le prix d'une baguette. J'en achète 2 ou 3 tous les jours. 1,10€ ou 1,25€, c'est complètement différent.
Même 5 à 10 centimes, à la fin du mois, ça se ressent effectivement. On va payer plus et effectivement, on sera impacté sur notre budget.
Mais cette hausse, beaucoup de boulangers en ont besoin. La faute à la forte augmentation du prix des matières premières, mais pas que, explique Dominique Enract, président de la Confédération nationale de la boulangerie.
Il y a quand même une augmentation effectivement du blé qui a flambé, donc il y aura une répercussion sur la farine, mais aussi l'énergie qui a flambé et aussi les salaires qui ont augmenté. Donc c'est vrai qu'on risque d'avoir une augmentation.
Dominique Enract tempère et rappelle que le prix de la baguette n'a augmenté que de 23 centimes ces 20 dernières années.
Yasmine Akatou, la politique à présent avec le projet de reconquête hier à Lille présenté par la candidate socialiste Anne Hidalgo. Elle est à 5-6%, vous le savez, dans les premiers sondages derrière Yannick Jadot. Pour les écolos, les socialistes doivent donc les rejoindre. Mathieu Orphelin, le porte-parole de Yannick Jadot.
On n'est plus du tout dans le contexte de 2017 où il y avait encore une position assez forte du Parti Socialiste et les écologistes qui s'étaient rangés derrière le candidat du Parti Socialiste. Aujourd'hui, la donne a changé. Ce que veulent les citoyens et les citoyennes, c'est l'écologie, ce sont les solutions écologistes. D'ailleurs, Anne Hidalgo l'a bien compris, elle reprend l'ISF climatique, elle reprend le vote à 16 ans, elle reprend d'autres propositions fortes des écologistes. Ça montre qu'il y a une compatibilité et que on a cette dynamique qu'on voit dans les sondages, dans l'opinion, que la candidature de Yannick Jadot se crédibilise de jour en jour, de semaine en semaine. On est au tout début de notre campagne et à côté, on a un début de campagne plus difficile pour les socialistes et ils sont les premiers à le dire. Donc aujourd'hui, la dynamique, elle est clairement chez nous.
Mathieu Orphelin avec Alexis de la Fontaine. Et puis dans le JDD, ce matin, la tribune du maire de Nice, Christian Estrosi, qui appelle la droite à combattre de toutes ses forces Éric Zemmour. Éric Zemmour, ce n'est pas De Gaulle, dit-il. Notez que l'écrivain philosophe Alain Finkielkraut sera à 10h l'invité du grand rendez-vous européen CNews Les Échos. Une marche blanche à 15h aujourd'hui à Mulhouse pour la petite Dina. Elle avait 14 ans. Elle s'est suicidée début octobre. Le drame s'est produit chez ses parents à Kingersheim. Cette jeune fille était victime de harcèlement scolaire. Mélina Fachin.
Pour Samira, la maman de Dina, c'est certain. Sa fille s'est suicidée parce qu'elle vivait un calvaire depuis 2 ans, harcelée par des filles de son collège qui étaient pourtant au départ ses amies.
Elle a commencé à leur parler du fait qu'elle était LGBT. C'est à partir de ce moment que ça a changé, quoi. Elle se faisait bousculer dans les couloirs. Elle s'est traitée de sale intello, sale arabe, sale lesbienne. Il fallait pas la toucher parce que sinon tout le monde allait être contaminé. Et elle avait déjà eu une première tentative en mars. Comme elle n'avait pas réussi, il lui avait envoyé « T'inquiète, la prochaine, c'est la bonne ». Plusieurs fois, j'ai appelé le collège et rien n'a été fait. Non, c'était des petites gamineries, c'est rien. C'est ma fille qui en fait tout un plat.
Samira compte porter plainte contre le collège et les harceleuses de sa fille. Le parquet a déjà ouvert une enquête pour vérifier si c'est bien le harcèlement scolaire qui a poussé l'adolescente au suicide. Edwige Romorizet, la procureure de Mulhouse.
On est en train de faire des recherches sur son téléphone, sur son ordinateur. On n'a jamais de certitude absolue à partir du moment où la jeune fille n'a pas laissé d'écrit.
Une marche blanche en mémoire de Dina est organisée cet après-midi à 15h à Mulhouse. Mélina Fachin, Europe 1.
15e samedi de manif contre le pass sanitaire en France. Un peu plus de 40 000 personnes ont manifesté sur l'ensemble du territoire. Chiffre stable par rapport à la semaine dernière. Direction la Chine à présent avec ce qui va devenir le plus grand centre de quarantaine du monde. Les ouvriers terminent les travaux d'un complexe de plus de 5 000 chambres. Complexe qui va accueillir des voyageurs en provenance de l'étranger et placés en quarantaine obligatoire. À Pékin, pour Europe 1, Sébastien Lebelzik.
C'est un complexe gigantesque, grand comme 46 terrains de football et dont les travaux ont coûté 260 millions de dollars. Plusieurs rangées de bâtiments de 3 étages abritent plus de 5000 chambres destinées à remplacer les hôtels qui servent actuellement pour les quarantaines obligatoires pour tous les voyageurs en provenance de l'étranger. Des quarantaines de 2 à 3 semaines en fonction de la destination finale en Chine. Un site ultra moderne en grande partie automatisé avec des robots chargés de la désinfection et de la livraison des plateaux repas. Une surveillance via des caméras et des drones pilotés par des bornes 5G, des détecteurs de température intégrés dans chaque chambre et même les tests Covid pourront être réalisés par des bras articulés. Un univers de science-fiction pourtant bien réel. L'objectif étant de réduire les contacts humains pour éviter les contaminations. Le complexe va ouvrir très bientôt et sera suivi d'autres quartiers d'isolement similaires à proximité de plusieurs aéroports internationaux. Le signe que la Chine s'installe dans une ère post-pandémique où chaque entrée sur le territoire national fera l'objet d'un contrôle particulièrement sévère. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Santé toujours, mais en France, l'Agence nationale de sécurité du médicament lance une grande campagne d'information. Son but, rappeler que pendant la grossesse, les médicaments ne doivent pas être pris de n'importe quelle façon. Afsaneh Sabouy.
L'objectif de l'Agence du médicament, c'est que toutes les femmes enceintes ou qui souhaitent l'être identifient vraiment le risque. Les médicaments peuvent perturber le bon développement du fœtus. Même s'ils sont vendus sans prescription, précise Céline Mounier, directrice de la surveillance à l'ANSM.
Par exemple, l'ibuprofène, à partir du 6e mois de grossesse, les risques sont extrêmement importants. Donc, médicaments à usage courant, si je puis dire, ou médicaments prescrits, les règles sont les mêmes. Surtout, ne pas prendre de médicaments sans en parler avant avec son professionnel de santé.
C'est un message qui vaut dès le premier trimestre de grossesse. À ce moment-là, on peut hésiter à en parler au travail ou à son entourage, mais surtout pas à ses professionnels de santé. Parce que les 10 premières semaines, c'est vraiment le moment où les organes du bébé commencent à se former. Il y a donc des risques importants de malformations. Et d'ailleurs, ces risques valent aussi pour les traitements qui ont une image plus naturelle. Par exemple, les huiles essentielles de sauge ou de menthe poivrée sont toxiques pour le cerveau des fœtus.
Afsaneh Sabouy, spécialiste santé d'Europe 1. Le sport à présent avec le ski d'abord et la Coupe du Monde qui a débuté. En Autriche, après le géant femme hier, place aux hommes aujourd'hui. Alexis Pinturo, le meilleur skieur du monde qui a remporté la saison dernière le Globe de Cristal, repart avec faim et envie en cette année olympique.
Je suis numéro 1 sortant de la saison dernière, donc ça facilite d'une certaine manière un peu les choses. J'ai un peu moins de pression vis-à-vis de ce gros globe et potentiellement je peux me concentrer peut-être plus facilement sur les Jeux Olympiques ou dans la préparation des Jeux Olympiques. Il faudra être à l'attaque, il faudra être aux avant-postes et puis après se ménager du temps surtout avant les Jeux Olympiques pour pouvoir arriver avec de la fraîcheur.
Alexis Pinturo avec Axel. Mais le football, un partout pour Lille-Brest hier, tandis que Nantes a enchaîné un 3e succès à domicile contre Clermont 2-1. Mais le clou de cette 11e journée, c'est ce soir au MPSG, au Stade Vélodrome. Et les supporters marseillais sont déjà dans le rythme. Stéphane Burgat.
L'excitation monte à la sortie de l'entraînement. Les joueurs sont encouragés par les fidèles venus à leur rencontre.
Si, c'est important, faut gagner les gars, faut gagner, c'est important. Ouais, c'est important, sinon je meurs.
Et certains viennent de loin, de très loin même, pour ça.
Bruxelles, hein ?
Non.
Vers les bagages. Oui, oui, spécialement pour le Classico. Donc, on peut dire le match de l'année parce que c'est le Classico. On attend les Parisiens avec soi-disant leur superstar. Voilà quoi, ce match, il faut le gagner, il faut prendre les 3 points.
Les supporters forcément gagnés par l'euphorie au moment de faire des pronostics sur la rencontre.
Pas de problème, à ce moment, on va gagner le match. Ils sont fatigués, tous. Hein. Le coach, les joueurs, tous blessés. Tous Neymar fatigué, Messi fatigué. On va leur mettre 3-0, facile. Mais c'est qui Messi? On a Genghis, on a Guendouzi, on a Payet. Payet, allez tout seul, il vaut Paris. On va gagner. J'ai plus peur d'Angers que de Paris.
Et d'autres se montrent beaucoup plus prudents, car on l'a vu, cet OM version Sampaoli est capable du meilleur comme du pire. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Voilà, match sous tension, bien sûr, à suivre sur Europe 1. Coup d'envoi ce soir, 20h45. Il nous reste à voir la météo. Alors Valérie Darmon, on va dire que c'est du soleil pour tout le monde, sauf pour la Bretagne. Hein.
Effectivement, Marseille qui sera donc au soleil toute la journée. Hein. Donc,
ça, c'est bon. Mais comme toujours d'ailleurs.
Comme souvent, voilà, comme souvent. On ne va pas faire des envieux ailleurs en France, mais c'est vrai qu'on a une petite perturbation qui gagne lentement la Bretagne en cours de matinée, donnant un temps pluvieux cet après-midi. Ces petites pluies qui vont gagner progressivement les régions des Pays de la Loire à la Normandie. Sur le reste du pays, le soleil qui l'emporte magistralement, mis à part autour du golfe du Lion, où on a quelques nuages qui s'invitent. Mais surtout ce matin, si vous habitez Reims, Metz, Strasbourg, Auxerre, Vézelay, Belfort, et surtout en campagne, vous êtes dans le brouillard, parfois très dense, donc les visibilités sont réduites. Prudence, soyez prudents sur ces régions du nord-est.
Les températures, dis donc, il fait frais ce matin.
C'est super froid, hein. On a de faibles gelées qui sont attendues dans l'Est et les vallées du Massif central. Les minimales qui sont comprises entre 1 et 6 degrés dans les terres, 7 à 12 sur le littoral, moins 2 à Montluçon, à Vézelay aussi justement, à Clermont-Ferrand, à Auxerre, moins 1 à Charleville, à Brive-la-Gaillarde, à Guéret, à Auch, 0 à Troyes et Chartres, 1 à Bourg-en-Bresse, à Reims, à Nancy, à Verdun, 2 à Mâcon, 3 à Manosque, 4 à Bordeaux et Paris seulement, 7 à Dunkerque et 10 à Brest. Et cet après-midi, des maximales entre 14 à Strasbourg et 23 à Marseille.
Merci, chère Valérie Darmon. À tout à l'heure, bien sûr, 6h30. Restez avec nous à suivre les pronostics de Thierry Léger pour le quintet de Longchamp cet après-midi. Les confidences de Barbara Pravi qui part en tournée. Et une balade du dimanche avec Marion Sauveur et Vanessa Zah. Belle-Île, puis la Normandie. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
6h13, c'est l'heure des pronostics des courses. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Thierry, c'est sur l'hippodrome de Paris-Longchamp que va se courir ce quintet. Un handicap sur la distance de 2200 mètres et parmi les 16 partants, difficile de ne pas accorder un très large crédit au numéro 5, Breath of Fire, qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, quel que soit le profil de l'hippodrome. Et comme il va évoluer cet après-midi sur une piste très souple à son entière convenance, sa régularité mériterait bien d'être récompensée par une victoire. On lui opposera les numéros un Villaro, le doyen de ce quintet, qui du haut de ses 8 ans est toujours aussi vaillant et performant. 9 Go With The Wind, lauréat d'une épreuve similaire l'hiver dernier à Caen-sur-Mer et à nouveau proche de son meilleur niveau après avoir été ménagé cet été. Et 12 Vezinaba, auteur d'une excellente rentrée le 2 octobre à Longchamp après 5 mois d'absence. Enfin Jackson, le numéro 6, dur et tenace, et les numéros 8, Bazoc, 11 Norville et 2 Monsieur Xo, qui dépendent tous les 3 de l'entraînement du Deauvillais Yann Barbereau, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 5, As, 9, 12, 6, 8, 11 et 2.
Bien noté, merci beaucoup Thierry Léger.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Allez, une personnalité, un lieu, des confidences et tous les dimanches matin, vous le savez, ce matin, une rencontre. Barbara Pravi, la chanteuse, prépare une tournée pour 2022 au Trianon les 1er et 2 février prochains à l'Olympia. En décembre 2022, rencontre dans les studios Saint-Germain à Paris, signée Naïma Benchemann.
T'es toute nue sous ton pull, y a la rue qui est ma jolie môme.
Bonjour Barbara Pravi.
Coucou.
Drôle d'endroit pour une rencontre. Merci Barbara de m'accueillir dans les studios Saint-Germain à Paris. En quoi ces studios sont très importants? Parce que je sais qu'ils le sont.
Écoute, j'ai fabriqué toutes mes chansons ici depuis presque 4 ans. C'est un lieu dans lequel j'ai repris confiance en moi très fort. Parce que quand je suis arrivée à Saint-Germain pour la première fois, je voulais arrêter de faire de la musique. J'avais été trop déçue, puis trop maltraitée. Et du coup, je suis arrivée ici pour un séminaire, en me disant, bon, j'y vais, histoire de montrer ma tronche, mais en fait, j'y crois plus trop, quoi. Et ce jour-là, tout a changé. Donc pour ça, ça a une importance de dingue.
Justement, il y a beaucoup d'artistes de la scène française actuelle qui sont passés par ces studios. Il y a Ibrahim Malouf, il y a Jane, il y a Vianney, il y a même Benjamin Biolay. Ils ont tous quelque chose en commun. Ils ont tous été nommés aux Victoires de la musique. Vous croyez que ça peut vous porter chance pour les prochaines ?
J'espère franchement. Voilà, et la chanson de l'année pour la SACEM. La SACEM, c'est la société qui nous donne nos droits d'auteur. Donc c'est quand même hyper cool. Qu'il en reste. Regardez-moi. Franchement, les victoires, je les espère. Le fait de pouvoir partager, le fait de pouvoir transmettre, c'est les émotions. Je m'en suis rendu compte très fort avec l'Eurovision. Personne ne comprenait un mot de ce que je racontais. Et pourtant, cette chanson, elle a traversé les pays. Voilà, je crois qu'il y a des choses en tant qu'humain qui sont bien plus fortes que toutes les barrières qu'on s'est mises.
Barbara Pravi, avant qu'on ne se concentre sur votre dernier album, j'aimerais qu'on remonte un petit peu le temps pour retracer un petit peu votre parcours. Contrairement à ce surnom qui vous colle à la peau, vous, comme la Môme Piaf, vous ne venez pas d'un milieu défavorisé. Vous avez un papa qui est professeur d'éthique dans les grandes écoles. Vous avez une maman qui est inspectrice dans l'éducation nationale. Vous venez donc d'un milieu assez lettré qu'on ressent dans votre musique. D'ailleurs, dans votre famille, on jouait du violon, on jouait du piano. Tout cela, ça vous a nourri, Barbara ?
Donne-moi encore un peu de tes mots, de ton cul, de tes bras, encore un peu.
Ben, je commence à prendre conscience de la chance que j'ai eue de grandir dans une famille dans laquelle, en effet, il y avait une grande bibliothèque. Il y avait
une grande richesse.
Il y avait mon père qui jouait du violon. Alors, c'était pas fameux, hein, mais c'était très beau. Et puis, il écoutait vachement de musique classique. Et puis, ma mère m'a appris à lire très, très tôt. Je crois que la chose qui est la plus importante, c'est la transmission d'éthique qu'ils m'ont transmis à ma sœur et moi, enfin qu'ils nous ont transmis. Ça, c'est vraiment un truc, c'est vraiment très beau.
Déda, Déda, écoute-moi, les choses que l'on n'ose pas se dire, les roses que l'on n'ose pas s'offrir, de peur qu'elles ne nous piquent les doigts. Tiens, les voilà, Déda, Déda, je te les dois, Déda.
Et avec le nom de scène aussi que vous avez, Barbara Pravi, hein, c'est pour rendre hommage à votre grand-père.
C'est plus que pour lui rendre hommage, c'est lui qui l'a trouvé ce nom. Ça veut dire Pravi, ça veut dire authentique en serbe. Ce que j'aime vraiment, c'est que Pravi, c'est donc le masculin de Prava. Et je trouve que ça me va bien d'avoir un petit côté Pravi quoi, dans mon nom.
S'il te plaît, reviens pour l'hiver, lorsque la nuit mangera le jour. S'il te plaît, pour l'hiver, faut que tu saches, je vais pas te mentir. Sans amour, j'attendrai s'il faut pour toujours. On se couchera sans réfléchir.
Barbara Pravi, vous avez commencé des études de droit que vous abandonnez évidemment très très vite parce que c'est pas du tout fait pour vous. Vous avez cette envie chevillée à l'âme d'être chanteuse et vous faites tout pour y arriver. Vous êtes serveuse, notamment au Trianon à Paris. Et ce joli pied de nez de la vie, c'est qu'en fait, vous allez vous y produire sur la scène du Trianon. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça ?
Je maquille bien ma face et je nettoie les sens.
J'attends cette date avec... Mais vraiment, je compte comme les prisonniers. En plus, j'ai été serveuse très longtemps là-bas. Moi, j'allais pas beaucoup voir de concerts. C'était pas dans ma... Enfin voilà, mes parents nous emmenaient pas voir de concerts. Et avec mes copines, on n'y allait pas trop non plus. Et donc du coup, j'ai vu vraiment mes premiers concerts là-bas. Et moi, je servais des bières pendant que les gens chantaient, quoi.
Vous laissez un pourboire, mais j'ai la tête en l'air.
Et puis dans cette salle de concert qui est magnifique, et je me disais, mais... En fait, ma vie, elle est là et un jour, je serai là. Et en fait, ce rêve se réalise, quoi. C'est complètement fou. Je suis trop fière d'être l'actrice de cette histoire-là.
Je sers des bouteilles.
des sodas, des cafés crèmes. J'espère qu'un beau jour mes bafoules.
On n'enferme pas les oiseaux. C'est le titre de votre premier album que vous avez enregistré ici, où on se trouve actuellement. Je trouve que c'est un titre très poétique, qui fait d'ailleurs référence à l'une de vos chansons, « L'homme et l'oiseau ». L'oiseau, c'est un peu vous, c'est un peu le combat que vous avez mené pour vous arracher la liberté que vous avez aujourd'hui.
Je les regarde battre des ailes, ces hirondelles qui te tournent autour, comme elles se cherchent dans ton regard, elles qui n'auront pas ton amour, ça les attire.
En tout cas, il résume bien ces 6-7 dernières années dans la musique et dans ma vie de femme. Et en même temps, je pense qu'il me résumera un peu toute ma vie, parce que je crois que je suis constamment en recherche de péter mes plafonds. Mais pour être capable de tout, il faut garder une part de folie, et peut-être que cette folie-là, elle est vachement liée à l'enfance, parce que je pense que quand on est enfant, on se rend pas compte des choses. Donc voilà, c'est un espèce de savant mélange entre être courageux, mais pas trop téméraire, et en même temps ne pas avoir peur, et en même temps rire.
8h50, tu sors de cette pièce effondrée, pleine de culpabilité.
Barbara Pravi, nous sommes donc dans les studios Saint-Germain où vous avez enregistré Prière. Ce sont 6 très belles chansons, très fortes, que vous aviez sorties, que vous nous aviez fait découvrir à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes le 8 mars dernier. Il y a la chanson Le Malamour sur les violences conjugales. C'est un mélange d'autobiographie et d'amour à destination des femmes, justement pour les encourager.
Tu sais, je suis bien avec toi. Même si,
une fois qu'elles ont été vécues, ça laisse de telles plaies et de telles séquelles qu'il faut trouver un moyen de s'en sortir. Exactement.
De les exorciser.
Exactement. Et en fait, moi, ma façon, je me rends compte que c'est quand même une grâce énorme, c'est de manier les mots et donc de savoir mettre des mots sur des émotions.
C'est parce que pour ta peau, je donnerai mon âme à la chaleur de tes mots.
Ce drôle d'endroit pour une rencontre, Barbara Pravi. On est dans les studios Saint-Germain où d'ailleurs vous êtes en train en ce moment même d'enregistrer le Prière 2, mais on ne peut pas en dire davantage pour l'instant, ça sortira à la fin de cette année. J'avoue, voilà, je ne peux pas vraiment m'en empêcher. Est-ce qu'on peut se quitter en musique?
Bien sûr, avec plaisir. Tu veux que je te chante quelque chose?
Ouais, je veux bien, j'en meurs d'envie.
La prière au printemps, tiens.
Pour accueillir le printemps dans ma vie comme une raison d'aller de l'avant, de toujours avancer, pousser et fleurir quand tourneront les vents.
Merci pour cette prière, Barbara Pravi.
Merci beaucoup, merci, c'était trop bien.
Entretien confidence de Barbara Pravi ce matin sur Europe 1. Allez, cap à l'ouest à présent.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
La balade de ce dimanche, Vanessa Zamarion Sauveur. Bonjour.
Bonjour à tous. Bonjour aux mouettes.
Attention.
On est bien accueillis.
Qui dit mouette dit. Regardez sur votre épaule. Bon. Alors...
Merci Thierry.
La balade de ce dimanche, direction bien sûr la Bretagne, ça vous gagne. Et on va à Belle.
À Belle-Île où se déroule l'intrigue du dernier film de Guillaume Canet, lui qui est à l'affiche en ce moment. Alors c'est l'histoire d'un compositeur qui vient de quitter femme et enfant et qui va vouloir trouver un refuge pour retrouver l'inspiration en s'installant à Belle-Île dans une vieille maison à flanc de falaise. Alors moi j'avais envie de d'en profiter pour vous parler justement de Belle-Île comme terre d'inspiration, puisqu'il y a beaucoup de personnalités qui sont passées par là et qui sont restées, comme Sarah Bernard qui s'est installée elle aussi face à l'océan, en première ligne comme Guillaume Canet, mais elle à la pointe des poulains.
Et comment la star des planches de l'époque a pu atterrir à Belle-Île alors ?
Alors, figurez-vous que c'est un de ses amis peintres, Georges Clairin, qui a décidé de l'y emmener. Et quand elle arrive là-bas, eh bien, précisément sur cette pointe, qui est très exposée au vent, elle a un véritable coup de cœur. Donc, elle l'achète, évidemment. Et puis, elle fait réaménager donc, ce fort. Et elle va construire 2 villas qu'elle appelle les 5 parties du monde, référence aux 5 continents. Et puis, la villa Lisiane pour accueillir sa famille. Donc, à ce moment-là, la famille, les amis, tout le beau monde de l'époque, même le roi d'Angleterre, donc, y débarque. Et elle organise des fêtes extravagantes. Elle
construit un tennis. On ne jouait qu'avec des balles orange d'ailleurs.
Ah oui.
Une ménagerie avec un boa de fer qui se promenait comme ça sur cette partie de l'île quand même.
Hein. Et le Fortin et Sevilla, ça existe toujours ?
Oui, alors ouais. C'était rénové, reconstitué il y a quelques années. Et avant de vous immerger, moi je vous conseille de commencer par le musée, parce qu'il y a une très belle scénographie avec en voix off Fanny Ardant qui vous raconte le quotidien en fait, de Sarah Bernard sur l'île. Et on découvre d'ailleurs qu'elle a beaucoup fait pour les Bélilois. C'est pour ça qu'il l'appelait la bonne dame de Penwet.
Ah. Vanessa, on peut partir sur les traces de qui d'autre encore ?
Alors, je vous parlais de Georges Clairin, l'ami peint de Sarah Bernard, qui n'aurait jamais pu tomber amoureux de l'île sans Claude Monet. En fait, il avait vu les peintures que Claude Monet avait faites de la côte sauvage, en particulier celle des fameuses aiguilles creuses de Port-Coton. Je pense que vous les avez en tête. Mmh. Elles sont situées donc à Bangor. Et alors, elles portent ce nom à cause de l'écume des vagues qui forme une texture qui ressemble à du coton quand la mer vient se fracasser comme ça contre les rochers. Il y a 39 toiles qui ont été peintes là-bas et elles font partie quand même des plus célèbres de l'histoire de l'art moderne français. Il existe 3 très belles boucles des promenades pour partir sur les traces de Claude Monet, là où il a posé donc son chevalet.
Un bon plan pour ses vacances de vacances,
ouais.
C'est une bonne idée. Ouais. Une adresse ?
Ah ouais, elle va vous plaire.
Allez.
Parce que c'est le Castel Clara, une institution assez sympa, cocooning, pour découvrir l'île hors saison. Elle fait aussi thalassothérapie,
ah oui,
Thierry,
bon.
Je sais que vous aimez bien.
Ah,
voilà.
Je viens aussi.
Ouais. Bah, moi aussi. Prends le bateau, là.
Marion Sauveur, avec vous, on va prendre la... Bon, on va pas loin, on va en Normandie.
Mais oui, on va cueillir des fleurs, mais pas n'importe lesquelles, des crocus violets qui renferment des pistils rouges écarlates au bout desquels pousse l'or rouge, le safran. Une épice délicieuse qui parfume les plats avec seulement quelques brins. La récolte se déroule en ce moment même et tout se fait manuellement. C'est ce que nous explique Julien Leblanc, il est safraniculteur dans le Perche.
C'est assez magique, hein. La fleur en fait sort, elle n'est pas encore ouverte, elle vient vraiment sortir, on voit vraiment la fleur fermée. Tous les matins on va cueillir la fleur en fait le plus tôt possible pour pas qu'elle s'oxyde et qu'elle prenne la lumière. Donc une par une, délicatement, avec précision. Là on est sur des périodes de pic, on est sur des périodes de 5-6 000 fleurs par jour. Après on se met autour d'une table et puis on vient émonder ce qu'on appelle en fait récupérer les stigmates, donc les filaments de safran. On vient couper avec des petits ciseaux de couturier les filaments pour éviter de les toucher, pour éviter de les oxyder parce qu'on a les doigts acides. Et puis après, on met ça sur des plaques dans un déshydrateur. Ce qui est important, en fait, c'est que le stigmate ne torréfie pas. Donc on sèche en dessous de 40 degrés.
Et toutes ces étapes, c'est ce qui détermine principalement la qualité du safran.
On voit bien que ça se fait avec Minichi, ça va coûter bien sûr bonbon.
Et oui, c'est l'épice la plus chère du monde. 1 gramme de safran sec, c'est 150-180 fleurs quand même. Et avec ce gramme, vous pouvez parfumer une soixantaine d'assiettes. Donc, il s'utilise avec parcimonie. Achetez-le surtout en filament. Ils doivent être bien rouge vif. L'idéal, c'est dans un bocal en verre fermé par un bouchon de liège. Comme ça, vous pouvez le conserver 4 à 5 ans. Mais à l'abri de la lumière. Julien Leblanc vend son safran sous la marque Safran du Perche sur son site internet, mais aussi sur tous les marchés de l'Orne.
Vous le cuisinez, vous, alors ? Comment on le cuisine ?
Mais oui, c'est un exhausteur de goût magnifique. Ouais. Moi, je vous propose une petite crème brûlée. Il irait très bien, sinon, avec une viande blanche ou un poisson. Mmh. Mais en crème brûlée, par exemple, pour accompagner la vanille avec subtilité, l'important, c'est de ne pas faire bouillir la crème lorsque vous faites infuser le safran avec la vanille. Donc, vous chauffez tout doucement. Mmh. Ensuite, la recette est la même. On mélange les jaunes d'œufs avec le sucre jusqu'à ce que ça blanchisse et on verse cette crème safranée sur les œufs, direction le four. On laisse bien au frais et au bout de 2 heures, on rajoute le petit sucre par-dessus.
Ah, bonne idée,
et là,
chalumeau. Ça, là.
Mais oui,
cet après-midi.
C'est très léger en safran, mais vous verrez, c'est délicieux. La recette sera sur europe1.fr. Et si vous allez dans le Perche, je vous conseille de découvrir la cuisine de la femme de Julien, c'est Nathalie. Ils ont une maison d'hôte, une oasis dans le Perche. C'est le nom. Elle propose un menu tout safrané, Thierry. Il faut goûter, notamment une blanquette de veau au safran. Et en dessert, des petites bananes flambées avec une préparation à base de rhum, de vanille et de safran. Préparation qu'ils vendent sur leur site internet si vous êtes intéressé.
On l'a pas, la préparation, là, Marion.
C'est à la Branchardière dans l'Orne.
Merci beaucoup, Marion Sauveur. Bien sûr, tout est à retrouver sur europe1.fr. Merci. Bon dimanche à vous deux.
Bon dimanche.
Europe Matin Weekend. Thierry Dagiral.
Et de Lille à Marseille en passant par Berlin, l'info à 6h30 avec Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Anne Hidalgo peut-elle ressusciter la gauche? La candidate PSI croit. Reportage à Lille dans un instant.
Et si on partait en vacances, même à la dernière minute, c'est possible. Les professionnels ont dû s'y habituer.
Comme tous les dimanches, la une du JDD à la fin de ce journal. On verra que les primaires n'ont plus la cote. Et puis votre invité à 6h45, Thierry, c'est Carl Olive. On ne le rencontre pas sous sa casquette de maire de Poissy aujourd'hui, mais bien d'ancien patron des sports de Canal+, qui a connu évidemment les grandes soirées au MPSG, puisque le classique c'est ce soir.
Et puis la tendance météo avec vous Valérie Darmon.
Eh bien le soleil qui l'emporte partout, avec davantage de nuages autour du golfe du Lion et surtout sur le Finistère. Beaucoup de brouillard dans l'Est, prudence, température entre 14 à Strasbourg et 23 à Marseille cet après-midi.
Point complet à la fin de ce journal. Anne Hidalgo se jette donc à l'eau. La candidate socialiste à la présidentielle a tenté de rassurer ses troupes hier.
Oui, entre 5 et 7% d'intention de vote au premier tour. Pour l'instant, ça ne pèse pas très lourd. Mais la maire de Paris, intronisée officiellement à Lille hier, compte bien aller jusqu'au bout. Elle l'a d'ailleurs dit. Santé mentale, écologie, égalité salariale, voilà les principaux thèmes de sa campagne. Maximilien Carrier était à Lille hier pour Europe 1.
Je veux être la première présidente de l'histoire de France parce qu'il est temps d'accomplir une grande avancée, celle de l'égalité entre les femmes et les hommes, et notamment au travail.
Anne Hidalgo, applaudie par des élus, des militants, dans la salle, des drapeaux du Parti Socialiste, des affiches Hidalgo 2022. Louis ressort du meeting, convaincu par les propositions de la candidate PS.
Moi je suis très touché par le fait qu'il faut supprimer Parcoursup, qui est une réforme injuste, et surtout l'ISF climatique, c'est une vraie mesure de justice. Et bien, aujourd'hui, demain, il faut financer la transition écologique, et c'est avec l'ISF qu'en partie on la financera. Et donc c'est ce genre de choses qui m'ont marqué.
Il y a également l'abaissement du droit de vote à 16 ans, la généralisation de l'encadrement des loyers dans les zones tendues. Toutes ces mesures annoncées reboostent les sympathisants comme Benjamin.
Ça galvanise pour justement aller à la rencontre des concitoyens et leur faire part du projet d'Anne Hidalgo. C'est la candidate la plus à même de rassembler, et notamment avec des propositions qui sont plébiscitées par les Français.
Des militants qui souhaitent quasiment tous ici l'union de la gauche, mais derrière Anne Hidalgo, j'irai jusqu'au bout, a d'ailleurs lancé la maire de Paris devant une salle surchauffée. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.
Nouveau samedi de manifestation. D'un côté, les gilets jaunes qui appelaient à réinvestir les ronds-points. De l'autre, les antipasses sanitaires. 171 défilés en France hier et 40 000 personnes dans les rues. C'est stable.
Vous êtes 14 millions à partir en vacances pour la Toussaint. C'est beaucoup plus que d'habitude.
Oui, en général, on part davantage à Noël qu'en novembre. Mais effet Covid oblige, tout le monde a eu envie de souffler. Dans le Morbihan, par exemple, on a constaté une hausse des réservations de 30%. Et de plus en plus, les vacances s'organisent à la dernière minute. Ce qui laisse parfois certains professionnels pantois. Charles Guyard les a rencontrés pour Europe 1.
Il arrive aussi qu'on a des personnes qui débarquent dans la cour pour nous demander si on n'a pas une chambre de disponible.
Avec des dates et des destinations de vacances qui se décident de plus en plus sur un coup de tête, Elisabeth Stella Rousseau, la gérante du domaine de Kerizel, a dû s'adapter.
Ça nécessite pour nous une organisation. Il faut toujours que les chambres soient prêtes pour être louées à la dernière minute. Surtout si la météo est au rendez-vous, là, c'est assez intense quand c'est comme ça.
Surtout que des communes du littoral ont parfois installé des webcams qui diffusent en direct des images de la plage, comme à Damgan, et voir un beau soleil sur l'océan, eh bien...
Ça peut déclencher aussi des départs très rapides.
Laurie Le Trionnaire, directrice de l'Office du Tourisme.
Il fait beau, on revient, voilà.
Et quand le beau temps est donc au rendez-vous, les centrales de réservation frétillent.
Les clients, ils ont vu qu'il faisait beau à la météo, paf, ils veulent venir dans le Morbihan. Il y a des pics au niveau des appels.
Résultat ici, Yves Géhanneau, le directeur des Gîtes de France du Morbihan, a dû accompagner les loueurs peu habitués à une clientèle plus volatile.
Historiquement, Gîtes de France, c'est des locations à la semaine, réservées longtemps à l'avance. On a expliqué à nos propriétaires en disant, ben voilà, les tendances, c'est ça. Soyez prêts.
Et dans le département, on s'attend pendant ces vacances à plus de 20% de réservations de dernière minute.
Même au dernier moment, on sera toujours là pour vous accueillir.
Dame Gant, Charles Guyard, Europe 1.
Et ces vacances de la Toussaint sont par ailleurs marquées par un mouvement des conducteurs de TGV Atlantique. Ils lancent un nouvel appel à la grève le week-end prochain, du vendredi au lundi midi.
Quel bilan tiré de la gestion du Covid au niveau européen? C'est l'un des thèmes du sommet mondial de la santé.
Il s'ouvre à Berlin, du dépistage à la vaccination. Il va falloir tout examiner à la loupe. Médecins, chercheurs, politiques, tous réunis pour des tables rondes et des conférences. Les détails avec notre correspondante en Allemagne, Hélène Kohl.
Avec plus de 6000 participants et 300 intervenants en présentiel ou en distanciel, ce sommet international est sans doute le plus important du moment, souligne la presse allemande ce matin. Jusqu'à mardi, 72 tables rondes vont permettre aux médecins du monde entier, mais aussi aux acteurs de la politique et de l'économie de la santé, d'échanger sur de nombreux sujets, pas seulement le Covid. Il y a notamment un focus sur les problèmes d'obstétrique au niveau mondial. Mais évidemment, ce sera aussi l'occasion de faire un premier bilan de la gestion de la pandémie de coronavirus, d'en tirer les premières conséquences depuis l'étape du dépistage jusqu'à celle de la vaccination. Un sommet placé sous le haut patronat d'Angela Merkel, de Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et d'Emmanuel Macron. Pour le président français, il est important de répondre de façon collective aux défis de santé afin de niveler les inégalités dans les accès aux traitements. Et en amont de ce sommet, il annonce que la santé sera l'un des dossiers forts de la présidence française de l'Union européenne qui commence le 1er janvier prochain.
Hélène Kohl,
Europe 1.
La Terre a encore tremblé en Guadeloupe. Un séisme d'une magnitude de 5,1 sur l'échelle de Richter. L'épicentre a été détecté à 104 km au sud-est de Saint-Barthélemy, à 93 km de profondeur.
Jouer aux échecs n'est plus un passe-temps réservé aux plus anciens.
Et non, la série Le Jeu de la Dame a remis ce jeu de 1500 ans au goût du jour, à tel point qu'à Paris, un premier bar à échecs vient d'ouvrir, le Blitz Society, ambiance feutrée et jazzy, à inspiration new-yorkaise, en plein Saint-Germain-des-Prés. Et c'est Céline Géraud qui s'y est rendue pour Europe 1.
Le cliquetis des pendules se mêle au son feutré des pions sur l'échiquier. 14h, un dimanche après-midi, quartier Saint-Germain, une dizaine de joueurs s'affrontent et pourtant ils ne se connaissaient pas en arrivant ici au Blitz Society. Alors pourquoi lancer ce bar à échecs à Paris? Romain Benhamou, l'un des fondateurs.
Notre objectif, c'est vraiment de désacraliser et de démocratiser le monde des échecs.
Ici, pas de carte de membre, 10 euros sans consommation pour jouer une heure. Sylvie, 40 ans, est venue avec ses enfants.
Dans la famille, tout le monde joue aux échecs. C'est une passion qui rythme un peu tous nos loisirs, nos activités, voire même nos voyages.
Un peu plus loin, Armelle, 73 ans, elle renoue avec les échecs avec une certaine gourmandise.
Je me suis rappelé que j'aimais beaucoup jouer aux échecs avec mon fils. Je veux voir si j'ai pas trop perdu le niveau.
L'une des promesses du lieu, sortir les accros des échecs en ligne et leur redonner le goût du face-à-face autour d'un échiquier.
Et qui sera échec et mat ce soir au MPSG? Ça aussi, hein, c'est un rendez-vous à ne pas manquer sur Europe 1. Bien sûr, le classique entre Marseille, 3e du championnat, et le leader, le PSG, l'OM qui rêve de battre les Parisiens à la maison pour la première fois en 10 ans. On écoute, c'est le milieu de terrain marseillais, Valentin Rongier.
On est prêt pour ce match. Ça va être un match avec une atmosphère particulière. On le sait tous, c'est le classico, les supporters l'attendent. Tout le monde va regarder ce match. L'effectif du Paris Saint-Germain, chaque année, c'est un des meilleurs effectifs d'Europe. Donc voilà, ça c'est pas nouveau. On sait qu'ils ont énormément de joueurs de qualité, des individualités qui peuvent faire la différence à n'importe quel moment. Collectivement, nous on est fort aussi. On a de très bons joueurs individuellement, mais collectivement on est fort. Et c'est à ce niveau-là qu'il faudra rivaliser surtout. Et même être meilleur.
Valentin Rongier avec Jean-François Pérez. Et histoire de ne pas gâcher la fête, Dimitri Payet, l'attaquant marseillais, appelle les supporters à l'exemplarité. A noter par ailleurs hier la victoire de Nantes face à Clermont, il y a eu 2-1. Et Brest est allé chercher le nul. Le nul à Lille, il y a eu 1 partout.
Merci beaucoup Lénaïque Monnier qui revient vous informer bien sûr à 9h. La météo à présent. Valérie Darmon fait glagla.
Et oui, on se couvre ce matin, on se couvre bien. Il fait très frais avec 0 à 10 degrés en général. Et vous connaissez de très nombreuses gelées de la Lorraine aux vallées d'Auvergne, au Jura, aux Vosges et dans les Alpes. Attention sur ces régions, jusque dans le Morvan, le Lyonnais, la Bourgogne, aux problèmes de visibilité particulièrement denses, hein, ces brouillards.
Dense, ouais.
Donc de la Lorraine au Morvan. Hein. L'après-midi, les maximales qui oscillent entre 12 à Strasbourg et 22 près de la Méditerranée, avec 15 degrés annoncés à Dijon, à Verdun, à Dunkerque et à Lille, ainsi qu'à Paris d'ailleurs. 16 à Rouen et annonce le Sony ainsi qu'Orléans. 17 à Troyes et La Rochelle. 18 à Bourg-en-Bresse et Saint-Étienne ainsi que Nantes. 19 à Angoulême et Périgueux. 20 à Montluçon, 21 à Manosque, 22 à Nice et 23 à Nîmes.
D'accord, donc du soleil aujourd'hui, principalement.
Principalement, oui. Sauf sauf tout de même sur le Finistère.
Exactement.
De la Nouvelle-Aquitaine à la Bretagne, on a donc ce ciel qui va se voiler progressivement au fil des heures et qui se couvre très franchement sur le Finistère, lâchant quelques gouttes au fil de la matinée. Des Hauts-de-France à la Normandie, bassin parisien, Pays de la Loire, Pyrénées, là le ciel se voile aussi, mais sans altérer l'impression de beau temps. Donc très belle journée, un petit peu comme hier. Autre bémol sur le Languedoc-Roussillon avec des nuages qui finissent par recouvrir votre ciel à cause cette fois des entrées maritimes. Et puis sur toutes les autres régions, et notamment une grosse, grosse moitié est, hein, jusqu'au centre de la France, c'est soleil.
Merci beaucoup Valérie Darmon. Allez, dans un instant, l'édito du JDD, les primaires qui, vous le savez, n'ont plus la cote. Puis mon invité, Karl Olive, le maire de Poissy, ancien journaliste sportif. Avant, bien sûr, le classico OM-PSG, c'est ce soir, 20h45. Bon réveil à tous, à tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
7h20, l'édito du JDD avec David Revaud-Allonne ce matin. David, nous le disions ici même il y a quelques semaines, les primaires n'ont plus la cote lors des élections présidentielles de 2012 ou celles de 2017. C'était la solution idéale, à droite comme à gauche, pour désigner le candidat, bien sûr. Aujourd'hui, plus personne n'en veut, mais quand on chasse la primaire, finalement, elle peut revenir par la petite porte.
Eh oui, les primaires, il y a 5 ou 10 ans, c'était la panacée, le remède miracle. Aujourd'hui, plus personne n'en veut et plus personne n'en fait. Seuls les écologistes ont adopté ce mode de désignation du candidat qui leur a permis de choisir Yannick Jadot. Pour le reste, le mot d'ordre, c'est cacher cette primaire que l'on ne saurait voir et qu'on ne peut plus supporter. Mais tout de même, il faut bien choisir un candidat et quand il y en a plusieurs, les départager. Regardez, les Républicains, échaudés par l'expérience François Fillon en 2012, ils vont choisir leur champion via un congrès le 4 décembre. Mais si cela n'a pas l'appellation contrôlée de primaire, ça reste quand même une compétition interne guidée par les différents programmes et les lignes politiques des prétendants, mais aussi et surtout par les sondages. Quelques 100 000 militants LR vont départager le 4 décembre les principaux concurrents. Donc ce sera une primaire en petit comité, une primaire sans le dire, mais une primaire tout de même.
Et à gauche alors, David, même combat ?
Et oui, seuls les écologistes ont joué le jeu de la primaire, contrairement au PS qui, après l'expérience François Hollande en 2012 et l'expérience Benoît Hamon en 2017, a abandonné ce mode de désignation. C'est donc là aussi un congrès du Parti Socialiste qui a désigné Anne Hidalgo, officiellement candidate depuis hier après-midi. Mais attention, il ne faut pas se fier aux apparences, car dans toute la gauche se joue une sorte de primaire clandestine et générale entre les prétendants des différentes formations. Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, donc, et aussi Arnaud Montebourg, tous se disputent le leadership à gauche. Et cette primaire-là, elle va se jouer dans les prochains mois, dans les sondages.
Il y a quand même un camp où il n'existe pas de primaire, c'est à la droite de la droite. Et là, on est sûr qu'il n'y en aura pas.
Alors c'est sûr qu'au Rassemblement National, ex-Front National, la primaire n'est pas vraiment une tradition, mais détrompez-vous, il y aura bien une primaire de ce côté-là de l'échiquier politique aussi, une primaire sauvage entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Tous deux sont à touche-touche ou presque dans les études d'opinion. Et les prochaines semaines, là encore, seront décisives pour savoir qui des deux va emporter le leadership de la droite nationale, comme on dit dans ce courant politique, et lequel des deux est le mieux placé pour se qualifier au second tour de la présidentielle. Donc on le voit, primaire nulle part, mais en réalité primaire partout, qu'elle soit cachée, sauvage ou clandestine. Non, en réalité, il y a un seul camp politique où il n'y aura nulle primaire, nulle compétition interne, ni même de discussion pour savoir qui sera le candidat. C'est dans la majorité, depuis qu'Édouard Philippe a annoncé qu'il soutiendrait Emmanuel Macron et qu'il visait pour sa part plutôt 2027. Personne n'osera contester la candidature du président sortant, comme quoi les seuls à être définitivement sortis des primaires, ce sont les macronistes.
David Revaud-Allonne du JDD, merci David, bon dimanche. À suivre, OM-PSG ce soir, on en parle avec Karl Olive, mon invité.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
L'interview de 7h moins le quart passé de ce dimanche. On va parler foot avant bien sûr la mythique affiche ce soir Marseille-PSG à suivre bien sûr sur Europe 1. Et on en parle avec un maire, le maire d'hiver droite de Poissy dans les Yvelines. Karl Olive, bonjour.
Bonjour Thierry.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. On vous a vu jouer il y a quelques jours avec Emmanuel Macron lui-même, avec le Variété Club de France. On sait moins que vous avez été journaliste sportif, car le livre à Canal+, et que vous avez publié un livre sur ce classico OM-PSG. Ce soir, vous serez soit à l'écoute d'Europe 1, soit devant votre télévision.
C'est exactement ça, et la journée démarre bien, je viens juste de terminer de cirer les chaussures. Vous voyez, au cas où, on soit prêt pour le coup d'envoi. On va jouer en moulée ce soir.
C'est ce soir à guichet fermé au Vélodrome. Pourquoi une grosse affiche? C'est une affiche historique, on le sait bien. Hein.
J'aimais à dire à l'époque, cher Thierry, vous l'avez rappelé, que quand j'étais directeur des programmes sport de Canal+, qu'un classico comme PSG-OM ou MPG, on pouvait d'ailleurs le diffuser, tiens, le dimanche matin, sans commentaire. C'était la meilleure audience de l'année. Ouais. Et ce soir, ce sera vraisemblablement la meilleure audience de l'année, d'autant que ça vous a pas échappé, c'est le centième classico. Exact. Et jamais, depuis quelques années maintenant, on a eu deux équipes, le PSG en tête et l'équipe de Marseille troisième, mm-hmm. mais surtout deux équipes qui jouent au ballon et qui produisent un beau football.
Premier classico au MPSG, on est en 1971. Le début de cette rivalité remonte donc au début des années 90, on va dire. Hein.
Oui, et puis on peut pas ne pas parler de ces classicos sans rendre hommage au regretté Bernard Tapie, qui avait le sens de la formule, qui a été avec Michel Denisot, président du PSG, celui qui a instauré effectivement, allez, presque de façon factice, ces derbies parfois irrévérencieux. Je vous donne juste une petite citation de Bernard Tapie qui parlait à l'époque à son coach Goethals. Il le réveillait en pleine nuit, un petit peu comme vous ce matin, et lui disait « Toi le Belge, tu me fais chier avec ton quadrillage sur le terrain, mais si tu perds dimanche, je te vire. » Bon, Goethals, il a été champion d'Europe en 93 avec Tapie. C'était ça, Bernard Tapie. C'est pour ça que Bernard Tapie est tellement adulé par le peuple marseillais. Et je vais vous dire, tellement adulé par celles et ceux qui aiment le football. Parce que moi, certes, je suis un fan immodéré du PSG parce que j'y ai joué, j'y ai été arbitre. Ma sœur a été manager du PSG. Elle est aujourd'hui présente olympique, présidente du comité olympique. Mais j'aime le football par-dessus tout. Et quand on a du beau football, bah, on est pour l'équipe qui représente la France. Et c'est vrai que quand l'OM, comme il y a quelques jours, a joué en Coupe d'Europe, on a vu un bel OM et j'en suis très heureux.
Pas de déplacement de supporters parisiens ce soir à Marseille. Ça a été souvent très tendu hors du terrain. Je voyais ce chiffre, 400 interpellations depuis 1995. Ça a toujours été tendu entre les supporters des deux camps. Hein.
Alors ça a toujours été tendu, Thierry, entre les supporters des deux camps, évidemment, avec des positions parfois exacerbées. Et il faut le regretter, parce que ça devrait être une vraie belle fête populaire. Alors, pas seulement, je parle pas de cette rencontre proprement parler ce soir, évidemment, c'est QFD. Mais le football devrait être une grande fête populaire. Et je peux vous dire que je suis très frustré, très peiné quand je vois effectivement des hordes de supporters venir pourrir un match comme dans la rue, on vient parfois pourrir la société. C'est une minorité qui vient encore une fois polluer une majorité de gens qui viennent au stade pour vivre leur passion. J'en fais partie et je crois pouvoir dire que le peuple marseillais comme le peuple parisien en font partie également.
Karl-Olive, l'avantage est souvent aux Parisiens. Pronostic, allez, pour ce soir.
Je verrai bien un match nul. Je verrais bien un match nul ce soir parce que cette équipe de Marseille joue bien, parce que le Paris Saint-Germain a eu un match compliqué en Coupe d'Europe et je suis très heureux qu'ils aient gagné contre Leipzig, évidemment. Je regardais un petit peu le bilan, Thierry. Centième classico ce soir, 46 victoires pour le PSG, 34 pour l'OM, 20 matchs nuls. Les dernières victoires de l'OM, c'était il y a deux saisons maintenant sur le score de 1-0 et c'était au Parc des Princes. Voilà, je verrais bien un match nul, même si, pardon de le dire, et pardon pour les supporters marseillais qui écoutent, je suis évidemment plutôt enclin à espérer une victoire du PSG.
Ouais. On va parler de vous à présent, Karl-Olive. L'exécutif vient de vous confier une mission sur l'insertion des jeunes des quartiers par le sport, une mission de 3 mois. Vous allez faire le tour des régions, comment ça va se passer ?
Je vais faire le tour des régions. Moi, vous savez, mon ADN, c'est le terrain, Thierry. C'est la passion du terrain. C'est comme ça que je gère modestement et humblement ma collectivité à Poissy, où il y a 40 000 habitants. Je suis la première commune à avoir donné 2 heures de sport à mes agents dans le cadre du temps de travail. Parce que, un, je crois aux vertus du sport. Je crois à l'amélioration des conditions de travail. Et paradoxalement, et ça m'a pas étonné, on a baissé l'absentéisme de 750 jours. On s'aperçoit que nos jeunes, entre 12 et 17 ans, depuis un an et demi, ont pris du poids, beaucoup de poids. Parfois entre 5 et 10 kilos, tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas faire des activités et qu'ils se sont propulsés sur les écrans, sur les PlayStation, etc. Aujourd'hui, on a besoin de retrouver ces jeunes dans nos associations sportives, notamment culturelles, mais également sportives, puisqu'on revient au sujet de la mission. Dans les quartiers populaires, c'est 2 fois plus important que dans les autres quartiers traditionnels. Donc on a un vrai sujet. Moi, je souhaite que les clubs, par exemple, puissent redescendre dans les quartiers pour aller porter la bonne parole. parole et que cette insertion ne soit pas un vain mot. On entend souvent parler d'insertion, ça fait 20 ans qu'on entend parler d'insertion. Mais moi, je me rends dans les régions, vous l'avez dit, dans les 12 régions de France, et je ferai également une escale en Outre-mer, pour voir ce qui fonctionne sur le terrain et ce qui pourrait faire école dans notre beau pays.
Dites-moi, faites-moi une confidence, Carloli. C'est un premier pas vers un futur job de ministre des Sports d'Emmanuel Macron en cas de victoire ?
Alors, absolument pas.
On entend ça ici ou là.
Je suis respectueux de... Oui, mais il faut laisser vaut mieux faire peur que pitié. Ce que je constate simplement, c'est que moi, je suis très heureux d'avoir la confiance du ministère de la Ville, Nadia Hay, du ministère des Sports, Roxana Maracineanu, et de Jacqueline Gourault, notre ministre de la Cohésion des Territoires. Parce qu'encore une fois, on fait confiance à quelqu'un qui va être indépendant. Moi, personne ne va me dire ce que j'ai à faire. Je suis assez grand garçon, je crois cocher quelques cases en étant issu des quartiers. Je suis né dans un quartier populaire à Poissy, et j'aime le sport en général, et vous le savez, et j'aime bien aller sentir ce que j'appelle le cul des vaches. Donc moi, je veux me rendre sur les terrains, dans ce qui fonctionne, dans les quartiers populaires, voir un certain nombre de collègues élus, des mamans également, qui ont des belles initiatives, aller sur des terres où on n'a pas forcément l'habitude d'aller, parce qu'on est parfois avec des a priori, et moi, c'est absolument pas le cas. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est le terrain qui va parler, et les préconisations que je ferai remonter seront d'abord celles du terrain.
Carl Olive, pas encore ministre, mais maire de Poissy, et devant PSG OM. OM PSG ce soir donc. Grand merci à vous.
À bientôt Thierry, bonne continuation sur Europe.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
À 7h, Isabelle Moreau prend la suite, un peu de douceur en attendant.